France Info.
Il est 20h03 sur France Info, les informés.
France Info, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Bonsoir, bienvenue dans les informés de France Info, votre émission de débat et d'opinion sur France Info, franceinfo.fr, sur les réseaux sociaux, avec le hashtag les informés, également sur le canal 27 de la TNT, le soulier fraîchement ciré, le poil soyeux et la laine fraîche, où il présente bien ce soir, et les informés de France Info accueillent Marion Mourgue du Figaro, bonsoir.
Bonsoir.
Également l'entrepreneur Xavier Alberti, bonsoir.
Bonsoir.
Jonathan Boucher-Petersen de Libération, bonsoir.
Bonsoir.
Yann Lindingue, rédacteur en chef de Flux Glacial, bonsoir.
Bonsoir.
Et pour ce début d'émission, Alexandre Falipou, bonsoir. Vous êtes rédacteur en chef au Huffington Post. Alors, nous parlerons bien sûr de l'ONU dans un instant. On parlera de ce qui se passe au Front National. Hein, ça ne marche pas trop en ce moment. Également des économies, puisque le gouvernement a réduit son bas de laine en machine. Alors, on devait être en direct avec un maire en Guadeloupe et les communications ce soir ne sont pas vraiment rétablies, notamment dans le nord de l'île. Donc on va essayer de le joindre au moment de l'émission. On l'aura sûrement vers 20h30. Donc on parlera à ce moment-là, en effet, de l'ouragan Maria. Mais pour l'instant, dans les informés de France Info, c'est l'heure de notre premier débat. Un sourire qui soulage, une voix sans image, un refrain qui voudrait crier toute première fois, c'est vrai, hein, qu'intervenir à la tribune de l'ONU pour la première fois donne envie de chanter du Jeanne-Masse. Emmanuel Macron et Donald Trump en ont bien profité. Les sujets ne manquaient pas, accord climat, Syrie, Birmanie, mais la phrase que l'on retiendra, c'est celle du président américain sur le régime de Kim Jong-un, Donald Trump.
Si nous sommes obligés de nous défendre, de défendre nos alliés, nous n'aurons pas d'autre solution que de détruire complètement la Corée du Nord. L'homme fusée est lancé dans une mission suicidaire pour lui-même et pour son régime. Les États-Unis sont prêts, sont disposés, sont capables, mais nous espérons que cela ne sera pas nécessaire. Et c'est pour cela que les Nations Unies sont là.
Voilà, Donald Trump aujourd'hui donc à la tribune de l'ONU. Alors Alexandre Falipou, Donald Trump, là, quand il parle de détruire totalement la Corée du Nord, il parle d'un, en effet, Rocketman, voilà, c'est Kim Jong-un. Tout ça est écrit, improvisé, réfléchi.
Moi, je pense que c'est totalement, totalement écrit, totalement réfléchi, et plus qu'un message à destination du monde entier ou un message à destination de Kim Jong-un, c'est un message aux États-Unis qu'il envoie. Parce que là, ces dernières semaines, il a été très critiqué par ses propres partisans. Parce qu'il a eu plusieurs accords avec les démocrates concernant la régularisation de milliers de sans-papiers, de migrants.
Le fameux Dreamers, comme on disait.
Exactement. Et donc du coup, il avait besoin de réaffirmer la souveraineté des États-Unis. D'ailleurs, il a cité son slogan « America first ».
Ouais.
Il avait besoin de montrer au monde entier que c'est lui le chef. Mais en fait, j'ai l'impression que c'est plus aux États-Unis qu'il parle que à l'ONU.
C'est ça. C'est vrai que Jonathan Boucher-Pertin, on avait l'impression de temps en temps que c'était ce qu'on appelle le discours de l'Union là-bas. De temps en temps, il s'adressait véritablement au peuple américain plutôt que finalement aux nations.
Oui, après, il y a un peu une dialectique de super-héros quand même. Hein. On le voyait lui essayer de gesticuler comme l'homme puissant avec Rocketman, ouais, qui revenait régulièrement. Début août, il y avait eu des mots qui étaient déjà quand même à peu près dans la même tonalité. Le feu et la fureur dans des proportions que ce monde n'a encore jamais connues. Bon, il est toujours capable d'aller plus loin. C'est du Trump assez classique. C'est vrai qu'entre un tweet de Trump qu'on peut commenter, et ça nous arrive souvent, et un discours à l'ONU, c'est vrai qu'on se disait qu'il y avait potentiellement une nature de discours qui pouvait évoluer. Voilà, aux États-Unis, on verra que Trump est le même partout, que Trump défend les intérêts de l'Amérique partout, que Trump se montre puissant partout. Il y a son électorat, ça lui parle très clairement. Après, je rejoins, c'est dans un moment où c'est effectivement compliqué sur le front intérieur. Ce genre de posture, voilà, ça fait quelques jours, ça fait pas une politique.
Avec Xavier Alberti, vous me faisiez remarquer avant l'émission que c'était un tweet de Donald Trump aussi, qu'il avait fait ce week-end sur le fameux Rocketman Kim Jong-un, c'est ainsi qu'il l'appelle.
Oui, mais en fait, je pense que je rebondis sur ce qui vient d'être dit. Il n'y a pas de filtre, il n'y a pas de différence.
C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'adaptation, c'est quelqu'un qui est brutal, qui n'a pas de surmoi. C'est-à-dire que ça vient et ça sort, quoi. Et peu importe, je pense qu'effectivement, c'est réfléchi.
Coup, hein. Il n'est pas sorti
du pitch. C'est assez cohérent, parce qu'il y a une vraie cohérence. Finalement, c'est surprenant qu'on soit toujours surpris. Ça nous choque, mais ça ne devrait pas nous surprendre, parce que finalement, c'est assez cohérent.
Alexandre Falipou.
Nous, au HuffPost, on a fait une vidéo ce matin, en disant, voilà, le pire discours qu'il pourrait faire à l'ONU, justement, c'était vraiment par contraste, en prenant tous ses tweets, toutes ses déclarations, les pires qu'il avait dites sur la Corée du Nord, sur l'Iran, etc. On avait dit, voilà, s'il disait ça à l'ONU, ça serait ça le pire. Eh bien, on était en dessous de la vérité.
Justement, parce Mario Morgue. Cette expression n'était pas dans le discours écrit. Donc, à la limite, c'était pas prévu et lui-même est sorti un peu de son cadre. Surtout qu'à l'ONU, généralement, c'est quand même un peu plus feutré parce que il y a un côté, c'est les diplomates, on se reçoit entre politiques. Et là, en plus, lui-même, on en a parlé de ses éclats, il est sorti de son discours. Donc l'expression, on le voit avec la traductrice, qui est un peu désemparée pour parvenir à traduire Donald Trump en direct.
Yann Manin, comment vous le voyez? Finalement, on l'a beaucoup caricaturé, bien sûr, Donald Trump, on le voit comme ça, mais voilà, ce genre de phrase, c'est quand même fort de prononcer ça à l'ONU.
Oui, c'est un truc de cow-boy. Moi, je vois le sale gosse d'à côté, Kim Jong-un, là, le shérif un peu alcoolo givré qui arrive. Et retenez-moi de lui mettre une fessée. Alors, voilà le rôle auquel l'ONU est tenu. Mais je trouve, n'empêche que dans cette joute-là, Kim Jong-un est un meilleur stratège parce qu'effectivement, l'autre, Trump n'a pas de surmoi. C'est-à-dire qu'il dit tout ce qu'il pense. Kim Jong-un, il est pas si bête, après tout. Ouais.
Alors Alexandre Falipou, il y a aussi quand même Donald Trump qui a dressé son axe du mal, hein, cette expression chère à George Bush. Lui, cette fois-ci, donc Corée du Nord, l'Iran, Cuba de nouveau. Et alors, ça a duré aussi très longtemps sur le Venezuela. Venezuela, véritablement, il est resté très longtemps en parlant d'échec du socialisme, du communisme. Des mots, finalement, Iran, Venezuela, communisme, on avait l'impression de revenir aux années 80.
Oui, mais je pense
c'est sa matrice, Donald Trump.
Je pense qu'il s'adresse totalement à son électorat qui est resté exactement sur ce que vous dites, c'est-à-dire sur le communisme, qui est resté à la guerre froide. Et je pense que c'est quelque chose qui parle à son électorat. Et donc c'est pour ça qu'il en rajoute. Effectivement, sur le Venezuela, pour le coup, on a été étonnés. On n'attendait pas une saillie de Donald Trump sur le Venezuela. Bah si, ils en ont pris aussi un petit coup derrière la tête.
Il y a un côté Reagan ou pas chez lui, vous diriez?
Je pense pas que ça soit la même forme. Sur le plan économique, on peut effectivement parler de réganisme, parce que là il est vraiment, on est vraiment sur le libéralisme, même pour des Américains. Mais après, on peut rejoindre le côté cow-boy, effectivement, la caricature du cow-boy. Bon, là, Reagan, au moins, était un acteur. Là, je suis pas sûr que Trump soit vraiment un acteur.
On va continuer à en parler dans un instant. L'info à 20h10, Stéphane Milhomme.
La Birmanie, le climat, la Syrie, les thèmes du premier discours d'Emmanuel Macron devant les Nations Unies. Le chef de l'État annonce que l'accord de Paris sur le climat ne sera pas renégocié. Emmanuel Macron considère, à l'issue d'une conférence de presse cette fois, que le président Assad est un criminel et devra être jugé. Le peuple syrien, dit-il, a assez souffert pour que la communauté prenne acte collectif. L'ouragan Maria a fait un mort dans les Antilles françaises. Une personne décédée et deux sont portées disparues en Guadeloupe, selon la préfecture. L'alerte violette déclenchée à midi heure locale à Saint-Barthélemy et Saint-Martin, c'est-à-dire depuis 18h, heure de Paris. La Martinique est en alerte orange. Le cardinal Barbarin sera bien jugé en avril prochain pour non-dénonciation d'agression sexuelle sur mineurs. Les faits auraient été commis il y a 25 ans par le père Prénat, un prêtre de son diocèse de Lyon. Le curé, lui, sera jugé ultérieurement. Un faux départ pour le procès des 9 incendiaires présumés de la voiture de police incendiée à Paris l'an dernier en marge d'une manifestation contre la loi travail. Procès finalement suspendu jusqu'à demain dans une salle d'audience plus grande du tribunal de Paris. Et puis 120 battements par minute représentera la France aux Oscars. Candidat à la candidature, car c'est bien l'Académie des Oscars qui doit trancher et dire si le film est bien inscrit dans la catégorie du meilleur film étranger en janvier prochain. 120 battements par minute raconte le combat des militants d'ACT UP dans les années 90.
France Info. 20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info, nous parlons de l'ONU. D'ailleurs, je vais prendre ma mug, hein, comme ça fait américain. Voilà, ça fait bien. Nous parlons de l'ONU où Donald Trump et Emmanuel Macron ont tous les deux déclamé leur premier discours chacun. Donc, il y a eu Donald Trump très offensif dans son style. Emmanuel Macron, c'était une autre ambiance, voilà, un petit peu. Mais lui, surtout, a axé sur le climat et il a tapé du poing un moment dans son discours. On écoute Emmanuel Macron.
Mon pays, devant cette assemblée, avait promis un accord universel à Paris. Il a été obtenu et signé dans cette salle. Cet accord ne sera pas renégocié. Il nous lie. Il nous rassemble. Le détricoter serait détruire un pacte qui n'est pas seulement entre les États, mais aussi entre les générations. Il pourra être enrichi de nouvelles contributions, de nouveaux apports, mais nous ne reculerons pas.
Emmanuel Macron, donc cet après-midi à la tribune de l'ONU, Marion Maugue, on voit en effet qu'il est le climat, c'est devenu une arme politique pour Emmanuel Macron, véritablement.
Oui, alors que c'était peu présent pendant sa campagne, mais là il le fait sien, ça revient en France le 12 décembre, donc en effet il en fait une arme politique avec Nicolas Hulot qui est peu présent, mais qui est peu présent dans le débat,
oui, pardon.
Mais qui était en effet à l'ONU avec Emmanuel Macron. Et c'est aussi une manière de se positionner face à Donald Trump. Et on voit que dans tout le discours d'Emmanuel Macron, à chaque fois, c'est l'anti-Trump sur chaque dossier. Et ça commence par le climat.
Ouais. Alexandre Faïpou, vous avez eu cette impression aussi en voyant Donald Trump que c'était vraiment en parallèle l'anti-discours de Donald Trump ou pas Emmanuel Macron?
C'est exactement ça. Je pense qu'on est en train de faire une vidéo où les deux se répondent. C'est exactement ça, sur chaque point, quasiment sur chaque point. Alors à part le climat, parce qu'en fait Trump n'en a pas parlé, tellement ça lui est égal. Mais oui, ils se sont répondus sur absolument tous les points et même sur l'ONU elle-même. C'est-à-dire que hier Donald Trump avait expliqué dans un premier discours qu'il doutait de l'efficacité de l'ONU. Là, il a parlé de détruire la Corée du Nord. Mais il n'aura pas besoin de le faire si l'ONU fait son job, donc c'est quand même une bonne manière de rappeler qu'il le fait pas. Et juste après, on a eu Macron qui, au contraire, a expliqué le rôle de l'ONU et son importance.
Une chose tout de même, Alexandre Faïpou, est-ce qu'on a parlé ce week-end que Donald Trump réfléchissait ou pas à revenir, ou est-ce que c'est de l'intox ou pas de revenir dans l'accord de Paris? À un moment, on a pensé qu'il allait le faire, et puis finalement, on nous a dit que ça sera pas fait, est-ce que...
Moi, j'ai pas plus d'infos, et puis celui qui est dans la tête de Donald Trump doit être un peu perdu. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a beaucoup de ses conseillers qui auraient envie que la porte soit ouverte et qu'ils reviennent d'une manière ou d'une autre. Après, ce que Donald Trump, lui, souhaite.
Oui, bien sûr. Jonathan Boucher-Petersen.
Non, mais juste un détail, c'est qu'il y a ce que veut Trump, et puis il y a formellement la société américaine, le pays en tant que tel, les acteurs de ce pays. On a vu après le retrait de l'accord de Paris qu'un certain nombre d'acteurs, même du monde de l'industrie automobile, par exemple, étaient montés au créneau, de l'industrie pétrolière, des gouverneurs, il y a aussi toute cette Amérique-là qui continue à être dans la trajectoire de l'accord de Paris. Donc, il y a des échelons qui sont assez importants aussi entre villes. Donc on voit que les choses avancent. Il y a les postures de Donald Trump, il y a clairement un discours de Macron qui s'est ajusté. On a vu qu'il y a eu un moment où tout d'un coup on a compris qu'il s'était passé quelque chose quand même avec le discours de Trump, qui restera comme le fait majeur. C'était la première fois que Macron y parlait. En d'autres temps, ça aurait pu être un événement. Là, clairement, voilà, l'alpha et l'oméga de l'ONU, ça reste quand même Donald Trump et ses foucades. Ça oblige tout le monde à se positionner. Après, quand on entend Emmanuel Macron se poser en garant de l'accord de Paris, là encore, on est aussi dans la posture. C'est plus vertueux parce que voilà, ce sont des sujets sur lesquels on a plutôt intérêt à avancer. Mais finalement, il n'est pas plus comptable de l'accord de Paris qu'un seul des 180 et quelques pays qui ont signé. Donc voilà, c'est bien aujourd'hui d'en être le garant. C'est mieux de faire de la politique écologique en France au quotidien.
Xavier Alberti, il s'en est servi? Il s'en sert aujourd'hui Emmanuel Macron de l'écologie? Il découvre que finalement, ça peut être une arme politique?
Ce qui clive, c'est la chose la plus importante en politique, parce que c'est ce qui définit. Donc forcément, il a trouvé qu'il y avait un point d'ancrage qui était très fort par rapport à Trump sur ce sujet-là, donc il s'en sert. Mais moi, je pense qu'il ne faut pas réduire le discours d'Emmanuel Macron aujourd'hui à l'ONU au climat. En l'occurrence, il n'a pas commencé par ça.
Non, mais il en a beaucoup parlé.
Il a commencé par le terrorisme et la migration.
Les deux
sujets majeurs sont ceux-là. Et il y apporte que des réponses qui sont basées sur le multilatéralisme, alors que Trump, de son côté, ne parle que de façon unilatérale. Hein. C'est-à-dire que c'est ça qui oppose vraiment les deux discours. Il y en a un qui dit « je suis là pour imposer la Pax Americana au monde entier, je suis le bien et tout le reste est le mal ». Et puis il y en a un autre qui dit « bah non, forcément, on a une communauté de destin et c'est le multilatéralisme qui vaincra ».
Et c'est pour ça qu'on peut se poser la question, mais alors ils s'entendent très bien finalement, c'est ça qu'on ne comprend pas. C'est ce sont deux hommes totalement différents, quand on les a vus le 14 juillet, c'était les meilleurs copains.
Non, mais je pense que Macron a réussi le coup de force de séduire, entre guillemets, excusez-moi pour le mot, Trump, effectivement, par un certain nombre de postures et de tons. C'est-à-dire que je pense que Trump a du respect pour les gens qui lui parlent directement. Et c'est ce que fait Macron. Par ailleurs, effectivement, ils sont en désaccord sur tout dès lors qu'on vient sur le fond.
Et Marion Boy.
Il y avait aussi un intérêt bien compris, c'est-à-dire que Emmanuel Macron a quelque part acheté Donald Trump à la baisse, alors que tout le monde le boycottait et il en avait besoin dans le jeu international. Et puis Donald Trump était très content d'être considéré à ce moment-là sur la scène internationale et d'être reçu en grande pompe le 14 juillet. Donc il y avait aussi... Voilà, ça reste des hommes politiques, des chefs d'État, et c'est pas des bisounours.
Oui, il y en a un quand vous voyez les deux, justement.
Je crois qu'il y a un coup de billard à trois bandes. C'est-à-dire qu'entre-temps, les États-Unis ont ramassé deux ouragans, que Trump a mis un peu de l'eau dans son vin sur le climato-scepticisme, et puis qui les Américains, en tout cas ceux du Sud, ses électeurs aiment bien les boucs émissaires. Alors là, Trump, ça l'arrange un peu de dire peut-être que c'est la faute du climat. Et j'ai l'impression que Macron s'engouffre dans la brèche. C'est ma vision de mec tordu. Hein.
Oui, bien sûr, voilà. Des gens tordus, c'est agréable. Alexandre Faipou, vous pensez, vous, que Donald Trump a mis un peu d'eau dans son vin au niveau climat, ou on n'a pas trop senti, même s'il était très présent sur Harvey, au Texas? Oui, bien sûr. Non, mais bien sûr, ne vous inquiétez pas.
C'est pas l'impression que j'ai eu encore, mais ça pourrait venir, effectivement. Là où vous avez tous raison, c'est qu'effectivement, ça reste un politique. Si son électorat commence à changer d'avis sur le sujet, il changera aussi d'avis, ça lui posera aucun problème.
Et sur la relation entre les deux hommes, en effet, on avait l'impression que c'était deux grands amis le 14 juillet, ils avaient du mal à se quitter, c'était incroyable à voir sur les Champs-Élysées, et pourtant, ils sont totalement opposés.
Et encore hier, quand ils se sont serrés la main, ils se sont vus, le discours d'après, c'est « on est d'accord sur à peu près rien, mais on peut se parler, donc c'est chouette ». Mais c'est vrai que les deux ont...
Au bout d'un moment,
il faudra quand même que ça serve à quelque chose. Enfin, au-delà, asseoir chacun dans sa position. Au bout d'un moment, c'est comme sur l'Europe. Hein. C'est-à-dire que c'est très bien de voir que tout le monde parle Emmanuel Macron et que quelque chose s'est levé. Au bout d'un moment, c'est pas pour faire le je sais pas comment dire, je vais dire un mot grossier, donc je vais essayer de trouver un synonyme que je trouve pas. Non, mais voilà, il y a un enjeu au bout d'un moment à faire avancer les dossiers. C'est-à-dire que tous ces images sont très très sympas quand on reprend les dossiers qui sont des gros dossiers. Hein. Birmanie, épuration ethnique inacceptable. Accord de l'Iran, le meilleur possible. Assad est un criminel. Enfin, pour le coup, c'est des choses qu'on aurait entendues exactement sous le pouvoir d'avant, le pouvoir d'après. Voilà, concrètement, il va falloir être ce poids politique, l'utiliser.
Cela dit, Emmanuel Macron, Alexandre, je pense qu'aujourd'hui, en tout cas, lui qui, en arrivant, voulait être un chef d'État, il avait envie d'une posture internationale qu'il n'avait pas auparavant. Le fait d'apparaître aujourd'hui grâce à l'accord de Paris, enfin grâce à Trump en fait, comme l'anti-Trump aujourd'hui sur la scène diplomatique, c'est génial pour lui.
C'est une opportunité.
Trump. Et l'anti-Trump, c'est Emmanuel Macron.
Sur les migrants, le vrai anti-Trump, c'est Angela Merkel, hein, quand même. Ouais. Justement, les actes, encore une fois, c'est l'accueil des migrants en France, c'est un sujet qui est traité régulièrement dans l'actualité. L'accueil des migrants en Allemagne, c'est quelque chose que tout le monde a pu suivre. Voilà, les actes.
Allez, merci beaucoup, en tout cas, Alexandre Faipou, rédacteur en chef de Huffington Post, d'être passé ce soir aux Informés de France Info. Dans un instant, on va revenir sur la politique nationale française en parlant, la petite bisbille au Front National. L'info à 20h20, Stéphane Milhomme.
Après le passage de l'ouragan Maria en Guadeloupe, une personne est décédée, deux sont portés disparus selon la préfecture. L'alerte violette a été déclenchée à midi heure locale à Saint-Barthélemy et Saint-Martin, c'est-à-dire 18h, heure de Paris, des mesures de confinement de la population. Dénoncer l'accord de Paris sur le climat serait une erreur, le constat d'Emmanuel Macron depuis la tribune des Nations Unies ce soir, en forme d'avertissement aux États-Unis. Le chef de l'État promet que la France consacrera 5 milliards d'euros par an à la lutte contre le changement climatique jusqu'en 2020. Avant lui, la parole aux États-Unis, Donald Trump se dit prêt à détruire totalement la Corée du Nord si elle ne renonce pas à ses ambitions nucléaires. Le président américain a dénoncé des États voyous qui menacent le monde, en tête la Corée du Nord et l'Iran.
Pas moins de 63 plaintes d'utilisateurs au Levothyrox. Le parquet de Marseille dresse un premier bilan aujourd'hui, quelques jours après avoir été saisi. Les suites du changement de dosage dans ce médicament pour la thyroïde. Et puis des avocats projettent de lancer une action collective au civil contre le laboratoire Merck visant à obtenir rapidement l'indemnisation des malades. Et puis le plan de suppression de 600 emplois chez Nokia suspendu jusqu'au 2 octobre. Des suppressions de postes attendues en région parisienne et Bretagne. L'équipementier finlandais de téléphonie attend la réunion de suivi avec des représentants de Bercy, du personnel et de la direction.
France Info.
20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info. Bon, je crois qu'il est inutile de revenir sur cette affaire de Couscous Gate, hein, puisque au niveau absurdité, on a tout de même permis au Front National de battre l'UMP et sa coqueuse. Donc voilà. En même temps, ce drame semoulier nous a juste confirmé ce qu'on savait déjà. Quand entre amis, on n'arrive pas à s'entendre sur le menu du déjeuner, c'est qu'il faut mieux se séparer. Le couscous digéré, la crise ne faiblit pas au Front National, puisque ce sont désormais les médias qui servent de ring entre Marine Le Pen et Florian Philippot. Le vice-président du parti est de plus en plus critiqué. En cause, l'association Les Patriotes, présidé par ce dernier, et Marine Le Pen n'aime pas les chevaucher en solitaire. On l'écoute.
Il sait, je crois, que la création des Patriotes, au moment des législatives, a créé une forme d'émoi au sein du Front National. Moi, je lui fais confiance pour lever ces ambiguïtés, pour rassurer les adhérents du Front National. Je prendrai comme président du Front National mes responsabilités.
Vous ferez œuvre d'autorité.
Encore une fois, le Front National fonctionne. Il n'y a pas de crise au Front National.
Il y a quoi alors?
Non, il
n'y
a pas de crise au Front National. Mais non, mais il n'y a pas de crise.
Voilà, Marine Le Pen ce matin sur RTL. Et sur ses entrefaites, son acolyte ou ex-acolyte, on ne sait plus trop, lui répondait Florian Philippot.
Je ne comprends pas du tout cette demande et je pense qu'on ne fera pas la refondation avec un pistolet sur la tempe. Voilà.
Avec un pistolet. Vous pensez que vous avez un pistolet sur la tempe?
Ah bah c'est ce qu'on m'a mis. On m'a mis un pistolet sur la tempe. Pour une raison que je ne peux pas comprendre.
Alors,
et je pense que si je répondais, je ne rendrais pas un service à Marine et au Front National, parce que ce serait démontrer que notre parti n'est pas capable du minimum syndical d'ouverture démocratique qu'un grand parti moderne en 2017 qui aspire au pouvoir doit être capable d'assurer.
Voilà, Florent Philippot, ce matin sur BFM. Alors Marion Maugre, on avait l'image d'un Front National qui nous vendait toujours l'idée d'un parti où tout allait bien, tout était formidable. Là, on sent que la présidentielle a laissé des traces. Pourquoi d'un coup aussi? Est-ce que c'est cette présidentielle qui fait apparaître toutes ces fractures ou pas?
Oui, parce que l'entre-deux-tours n'a pas fonctionné comme les cadres du FN le voulaient. Donc il faut aussi, entre guillemets, faire tomber des têtes. Et on a connu une première crise qui était avec Jean-Marie Le Pen. Et on pensait à la limite que cette crise était plus forte de toutes les crises qu'on avait connues. Et on s'aperçoit que, hop, ça recommence. Et c'est surtout cette crise qui pourrait être fatale à Marine Le Pen, parce qu'on voit bien que là, elle est coincée. Soit elle laisse Florian Philippot finalement reprendre le pouvoir, et alors finalement, elle n'a plus aucune autorité. Or, elle en a déjà perdu. Soit elle le renvoie et... Le FN s'effondre. Donc c'est vraiment compliqué, je trouve, pour elle. Là.
Xavier Alberti, quand on voit ces tensions, Marine Le Pen quand même avait laissé faire Florent Philippot au départ, créer son petit groupe, voilà les, ouais, les Patriotes, et puis d'un coup là.
Mais il y avait une alliance objective entre les deux longtemps qui fonctionnait bien, parce qu'il apportait quelque chose à Marine Le Pen qu'elle pouvait trouver nulle part ailleurs à l'intérieur du parti. Je crois que la crise est beaucoup plus profonde que le simple affrontement entre ces deux-là. Le sujet, c'est que le Front National s'est bâti sur une colonne vertébrale idéologique qui était très claire. Même si elle était caricaturale, elle était très claire. Et sur un chef qui était incontestable. Pendant le second tour et pendant le débat de second tour, les deux ont volé en éclats. Mmh. La figure du chef et la colonne vertébrale idéologique, parce qu'on s'est bien rendu compte de la faiblesse des propositions économiques du Front National. Et par ailleurs, il y a un vrai schisme à l'intérieur du parti sur l'euro et l'Europe. Donc aujourd'hui, il n'y a plus rien qui tient l'ensemble.
Donc ça veut dire imaginer un Front National sans Marine Le Pen?
Ah bah sans Florian Philippot, s'il faut
choisir, le FN a déjà choisi.
Ça ne suffira pas. Oui, mais il y a peut-être d'autres personnes qui peuvent revenir et contester Marine Le Pen. Je pense pas que Florian Philippot puisse le faire, mais sa nièce, oui.
Moi, je suis pas totalement convaincu. Enfin, en gros, le constat de l'entre-deux-tours de la présidentielle, c'est ce qu'il fallait parler aux électeurs de François Fillon et ce qu'il fallait parler aux électeurs de Jean-Luc Mélenchon. En gros, la ligne sociale, étatiste, souverainiste, anti-Union européenne, mais pas tellement anti-immigration.
En tout cas, c'est celle
pas
de Florian Philippot.
Celle de Florian Philippot. C'est pas tellement naturel dans son discours. Et de l'autre côté, celle de Marion Maréchal Le Pen, pour le dire grossièrement, donc libéral sur les questions économiques, très identitaire, très islamophobe sur les questions d'immigration. Voilà, ça s'est affronté pendant longtemps. L'enjeu du premier tour de la présidentielle, c'était d'essayer de faire une synthèse et de voir ce que ça pouvait faire. Clairement, le résultat décevant, les législatives, tous les gens qui sont restés sur le carreau, qui pensaient être élus, une Marine Le Pen qui n'est pas en situation de peser comme elle voulait peser, voilà, tout ça, ça ouvre la porte à des règlements de compte. Florian Philippot, il a un autre problème, c'est que personne ne l'aime au Front National. Enfin, au bout d'un moment, ces histoires de parti, c'est évidemment des histoires politiques, c'est évidemment des histoires de lignes idéologiques, c'est aussi des histoires humaines. Et formellement, Florian Philippot, à part un petit groupe d'affilés, qui a d'ailleurs en grande partie déjà quitté le FN, personne ne l'aime. Donc il y a un moment où, pour des bonnes, des mauvaises raisons, aussi ridicules que le couscous, à chaque occasion, à chaque tout petit élément qui permettra de l'affaiblir, ils vont lui rentrer dedans. Est-ce qu'il a envie de subir ça? C'est d'abord ça qui se joue.
Il y a la main.
Il y a un truc qui me fait vraiment rigoler, c'est quand j'entends Philippot qui dit nous sommes un grand parti moderne, et en ce moment ils sont en train de s'écharper sur la ligne traditionnelle pétainiste, on va dire. Hein. On invoque Brasillac, ou on fait la fête à Forisson, hein, oui. Voilà, les Golniches et compagnie. Et un mec qui est gaulliste. Alors ça, c'est super hein, pour un parti moderne de s'écharper sur des considérations comme ça. Maintenant, le Front National, c'était une espèce d'hydre qui parlait de façon très opposée, voilà, qui sociale, qui... Marine Le Pen qui voulait laïque contre les cathos à la Marion Maréchal, ce truc a explosé, et Vauquez se propose, lui, comme il dit tout et son contraire, de reprendre la clientèle.
Alors on va continuer à en parler, je vous assure, Marion, ne vous inquiétez pas, vous pourrez également en parler. La suite des Informés de France Info, c'est dans quelques minutes.
Et si travailler avec l'international devenait un jeu d'enfant?
Tu sais qu'avec mon forfait Orange Pro, j'appelle en illimité vert et depuis toute l'Europe.
Ouais, et ben moi, avec mon forfait Orange Pro, je peux contacter mes fournisseurs au Brésil et en Russie.
Ah bah moi, grâce à tous mes gigas, je peux travailler sereinement avec mes clients aux States, hein.
Ah ouais, tu parles anglais toi maintenant?
Avec Orange, travaillez plus facilement avec l'international grâce à la gamme Performance Pro. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Offre soumise à conditions, disponible en France métropolitaine, réservée aux professionnels. Conditions et détails sur orangepro.fr.
Bonjour, c'est Guillaume Durand. À partir du 21 septembre, je vous propose d'embarquer avec TV5 Monde pour un événement télévisuel absolument inédit, le Tour du Monde de la Francophonie. Paris, Séoul, Kinshasa, Papette, 25 heures de direct, des dizaines d'invités à la découverte d'une francophonie surprenante, talentueuse. Tour du Monde de cette francophonie, le 21 septembre à 13h sur TV5 Monde.
Si je te dis porte blindée, tu me réponds?
Point Fort Fichet. Ma sœur s'est fait installer une porte blindée après son cambriolage.
Eh bien, du 19 septembre au 7 octobre, Point Fort Fichet reprend ton ancienne porte d'appartement ou de maison jusqu'à 600€.
Je fonce.
Point Fort Fichet, nous protégeons ce que vous avez de plus cher.
Voir conditions en magasin et sur fichet-pointfort.com.
France Info Météo, avec Pilote, fabricant de stylos innovants au grand confort d'écriture. Pour l'école, la maison ou le bureau, retrouvez tous les stylos pilotes sur pilotepen.fr.
Et à Météo France, on retrouve Elodie Calac.
Ce sera plus calme demain, souvent bien ensoleillé. On aura quand même beaucoup d'humidité le matin entre le nord-est, l'Auvergne et le Lyonnais. Ça s'arrangera l'après-midi, retour d'éclaircies, trop timide vers le grand est. Entre la Manche, la région parisienne, la Vendée, de belles éclaircies mais aussi du brouillard le matin. Une nouvelle dégradation nuageuse pour la Bretagne l'après-midi. Dans le sud, un peu de brouillard aussi le matin, vite effacé par le soleil. Le vent sera plus faible en Méditerranée. Ce sera encore frais le matin, souvent 3 à 9 degrés. L'après-midi, bonne nouvelle, ça commencera à remonter doucement, 16 à 20 degrés au nord, 19 à Paris, Vannes, Nevers. Il fera 18 à 22 degrés dans le sud, 19 à Lyon, 21 à Toulouse, et puis en Méditerranée, 21 à 26 degrés.
France Info.
Deux points, ouvrez l'info.
Et l'info à 20h30, c'est Emmanuel Langlois, bonsoir.
Bonsoir Jean-Mathieu, bonsoir à tous. C'était une première pour Emmanuel Macron, premier discours devant l'Assemblée générale des Nations Unies à New York. Le chef de l'État français a ensuite développé certains points lors d'une conférence de presse, rappelant notamment la position de Paris sur le conflit en Syrie. Si le départ de Bachar el-Assad n'est plus un préalable au règlement de la guerre, eh bien le dictateur syrien est accusé d'avoir utilisé du gaz sarin contre son peuple. Il devra être traduit devant la justice internationale, a martelé Emmanuel Macron.
Pour ce qui est de Bachar el-Assad, c'est un criminel. Il devra être jugé et répondre de ses crimes devant la justice internationale. Mais je n'ai pas fait de sa destitution un préalable par pragmatisme. Parce que nous avons fait de sa destitution un préalable depuis le début de la crise, c'est-à-dire depuis 2011, sans aucun résultat. Donc nous devons, par pragmatisme, avancer et construire cette solution politique. C'est pourquoi ce que nous avons proposé, c'est de mettre autour de la table l'ensemble des parties, des forces en présence au niveau syrien, l'opposition comme les représentants du régime, l'Union européenne et les parties prenantes dans la région. Et je pense avoir convaincu nos partenaires de la nécessité de ce processus.
Emmanuel Macron lors d'une conférence de presse à l'ONU ce soir. Premier discours aussi pour Donald Trump devant l'Assemblée générale des Nations unies. Le président américain qui dénonce les États voyous qui mettent le monde en danger, à commencer, dit-il, par la Corée du Nord, qu'il a tout simplement menacé de détruire totalement. Donald Trump qui pourrait aussi revenir sur l'accord nucléaire iranien. Un mort et deux disparus en Guadeloupe après le passage du cyclone Maria, toujours classé en catégorie 5, la plus élevée. L'alerte violette a été déclenchée à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy. Les autorités appellent au confinement des populations, au moins jusqu'à demain. Les deux îles déjà balayées par l'ouragan Irma il y a deux semaines s'attendent à essuyer de nouvelles pluies sur un sol déjà détrempé et des rafales à 100 à 120 km/h. La dépression s'est éloignée de la Guadeloupe ce soir. Elle a épargné la Martinique, mais ravagé l'île de la Dominique. Londres suspend son programme de formation de l'armée birmane en raison des violences contre la minorité musulmane des Rohingyas. La première ministre Theresa May appelle à arrêter le massacre ce soir. Ryanair en pleine tourmente, secouée par l'affaire des annulations de vol. La compagnie irlandaise à bas prix va proposer à ses pilotes une prime exceptionnelle de 12 000 euros afin qu'ils renoncent à une dizaine de jours de congé. Bercy veut profiter de la croissance pour réduire plus vite le déficit. Le gouvernement vise désormais 2,9% de déficit public dès cette année, sous la barre fatidique des 3%.
20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info jusqu'à 21h sur France Info, franceinfo.fr, sur les réseaux sociaux, avec le hashtag Les Informés également sur le canal 27 de la TNT. Eux, ils gigotent, hein, musique de l'actualité. Ce soir, les informés de France Info reçoivent Marion Mourgue du Figaro, l'entrepreneur Xavier Alberti, Jonathan Boucher-Petersen de Libération et Yann Lindin, rédacteur en chef de Flux Glacial. Encore un petit mot sur la bisbille au Front National. Je vous ai coupé tout à l'heure. Marion Mourgue, vous vouliez rajouter?
Oui, c'est que souvent au Front National, enfin comme dans tous les partis, les lignes sont idéologiques, sont tranchées par un congrès. Or, le prochain congrès, c'est en mars 2018. Donc, ça fait quand même pas mal de temps si les deux s'écharpent, pas médias interposés, et je suis pas sûre que les militants suivent cette partie de ping-pong.
Mais ce qui paraît quand même assez étonnant, c'est ce que disait Jonathan Boucher-Petersen, ce que disait Florent Philippot tout à l'heure sur la démocratie au Front National. On a vu que jusqu'à présent, c'était quelque chose qui n'existait pas trop au sein de ce parti. Il y avait
mais quand
le chef.
Il s'agissait de ne pas contester la ligne qui était celle que conduisait Marine Le Pen, c'est-à-dire la sienne. Le fait que ce soit, en gros, silence dans les rangs, c'était quelque chose qui lui convenait tout à fait. Après, il découvre, c'est pas une exclusive du Front National, mais c'est vrai que c'est particulièrement criant au Front National. Cette culture des chefs, cette culture lepéniste, en tout cas, fait qu'effectivement, c'est au bon vouloir de celui qui est président. On voit bien que, on voit un certain nombre d'épisodes. Ce qui est singulier, c'est que vous évoquiez le crime originel de Philippot, c'est-à-dire le fait d'avoir écarté Jean-Marie Le Pen. Il pensait en avoir fini avec ce Front National originel. Il défend le changement de nom. Enfin voilà, pour le coup, c'était l'étape 2 de la dédiabolisation. Là, aujourd'hui, il se retrouve confronté aux forces obscures et habituelles du Front National. Voilà, c'est cet ADN dont on se décrase pas si facilement.
Allez, on va parler un petit peu d'économie, puisque vous savez que l'heure n'est plus à la dépense. Hein. Économie, 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 voilà le mot d'ordre du gouvernement. C'est d'ailleurs pour ça, vous savez qu'Emmanuel Macron a nommé Édouard Philippe à Matignon, parce que vu sa taille, on peut au moins habiller la moitié du gouvernement avec une de ses vestes. Économie à tous les étages et en première ligne, le ministère du Travail et celui du Logement. Le travail passerait de 15 à 13 milliards, celui du Logement baisserait de 18%. Pôle emploi serait également dans le viseur de Bercy et les projets de grands travaux, notamment TGV, autoroute, sont gelés. Il faut trouver 16 milliards hein, tout de même pour respecter les engagements européens. Mais jusqu'où faut-il aller pour cela? Alors déjà, il faut s'entendre sur les chiffres, parce que pour l'instant, c'est coussi coussa. Et oui, cette belle expression d'excite la ministre du Travail, Muriel Pénicaud.
Je ne confirme pas ces chiffres parce qu'ils ne sont pas exacts. Le budget du ministère du Travail sera, donc, comme tous les autres budgets, au moment de la loi de finances, la semaine prochaine, sera annoncé dans le détail, sera précis. Mais vous verrez qu'il est globalement ça. Par contre, oui, c'est un budget de transformation. Et donc, à l'intérieur du budget, il y a des sujets qu'on veut pousser beaucoup plus. La formation professionnelle, parce que c'est ça qui donne, en période de croissance, la chance d'avoir un emploi durable, c'est d'avoir la bonne qualification, et d'autres dispositifs qui sont moins efficaces qui seront diminués. Donc il y aura du plus et du moins.
Voilà, du plus, du moins, on ne sait pas trop exactement, hein, c'est un peu mystérieux. Je vois si vous faites rire, Yann Lannan, quand vous entendez ça.
Oui, non, oui. Enfin, non, mais je repensais moi à Gérald Darmanin qui veut fermer le bureau d'absolution
des exilés fiscaux.
Des exilés fiscaux, oui. 7,8 milliards collectés en 4 ans et on fixe plus ou moins entre 60 et 80 milliards l'évasion fiscale par an. Donc, y a pas un truc à faire là au lieu de fermer le bureau avant de gratter sur les chantiers.
Ah bah c'est sûr que c'est vrai que Xavier Albertini.
Le message de Darmanin, c'est pas de fermer le bureau pour fermer le bureau. C'est dire qu'il y avait un bureau qui jusqu'à présent servait à négocier les retours des exilés fiscaux, et il dit ça suffit, il y a eu assez de retours négociés.
D'accord.
On ferme le bureau et dorénavant on chasse et il n'y a plus de négociations possibles.
Il le dit ça,
on chasse. C'est ça qu'il dit.
J'ai mal compris. Je suis un humoriste.
Ah, mais vous n'entendez pas. C'est pour ça que vous ne voulez pas entendre aussi.
Dans une interview à Libération, non, je le glisse au passage.
Exactement, bravo. Voilà, tout le monde fait un set.
Très bon journal.
Justement, Xavier Alberti, quand même, là, est-ce qu'il faut s'attendre à des coupures quand même assez sévères. On voit quand même que pour Pôle emploi, là, ça risque d'être assez violent. On voit des ministères, en effet, qui doivent donner beaucoup d'argent également. L'aide de cadrage et les budgets là, du gouvernement, ça va être un peu difficile à annoncer, non ?
Bah, ça va être forcément difficile, mais ça va être forcément sérieux, parce que il y a eu une annonce de Bercy qui a été claire et une annonce du président de la République à la base qui a été dit on ne dépassera pas les 3%, donc déficit. Donc en l'occurrence, on va les tenir et cette année, on sera à 2,9 et l'an prochain, on annonce 2,6 si j'ai bien suivi aujourd'hui. Donc ça va être tenu. Pour faire ça, bah, effectivement, tout en globalement jouant sur deux budgets qui vont augmenter fortement, c'est-à-dire l'éducation nationale et les armées, bah, il faut bien qu'on en coupe ailleurs. Et le vrai sujet derrière, c'est celui de l'efficacité budgétaire. D'ailleurs, dans son discours à l'ONU, Macron en a reparlé lorsqu'il a évoqué l'aide publique au développement, en disant qu'on allait, nous, mettre 0,55% de notre budget, de notre valeur, enfin, du PIB, on va dire, sur cette partie-là. Mais ce qui compte, c'est pas tant l'argent, c'est est-ce qu'il est efficace. Le sujet de savoir si on doit couper, est-ce que Pôle emploi, dans toutes ses missions aujourd'hui, est efficace? Et sinon, est-ce qu'à un moment donné, il faut savoir réduire la voilure pour trouver plus d'efficacité.
Alors Marion Mogue.
Il y a plusieurs choses. C'est que au fur et à mesure des interviews, on a l'impression que parfois les budgets remontent.
C'est fluctuant.
Oui, c'est fluctuant. Mmh. Les annonces sont différentes. C'est-à-dire que par exemple pour l'armée, on a d'abord eu une baisse annoncée et puis là on nous dit non mais l'année prochaine on va remettre des crédits.
Non, on a toujours dit qu'il y aurait cette année effectivement une baisse pour coller à la feuille de route initiale et respecter qu'en 2018 le budget montrait effectivement.
Enfin, je pense que si on demande aux militaires, je suis pas sûr que ce soit très clair.
C'était limpide.
Pour eux, vous savez, les militaires parfois de temps en temps ils ont besoin de choses claires. Je sais pas si c'est très clair.
C'est juste pour situer quand vous dites on a toujours dit c'est entrepreneur macronien. Parce que moi la dernière fois que vous êtes venu, vous étiez plus objectivement.
On est un consensus. Mais l'État. Il a toujours été dit par le Premier ministre, en l'occurrence le président de la République. Enfin, c'est pas un secret que je suis un soutien d'Emmanuel Macron.
Oui, bien sûr.
Je ne m'en cache pas. Je ne m'en cache pas, en l'occurrence. Mais donc, il a toujours été dit qu'effectivement, le budget des armées, cette année, respecterait le budget initial et donc il y aurait une coupe et qu'en revanche, l'an prochain, il augmenterait.
Je pense que quand même, selon les interviews, il y a un budget et selon les ministères qui monte ou qui descend. Ça se voit aussi pour le logement, puis la culture hier, ça a été sanctuarisé par Gérald Darmanin. Donc tout ça, il faut voir à la fin ce que ça donne. Et on a l'impression que le gouvernement, pour faire ses économies, table sur une augmentation de la croissance. Alors souvent, les gouvernements tablent là-dessus, mais parfois, ça bouge. Donc comment ça se passe si jamais la croissance n'est pas au rendez-vous? Et ben là, c'est une équation.
C'est le souci, et c'est d'ailleurs pour ça qu'en fait ça devait être 20 milliards et maintenant c'est 16 milliards en fait
d'économie. Donc là aussi ça a changé.
Parce que c'est par rapport, en effet, par rapport à la croissance qui pourrait être meilleure que prévu. On continue à en parler dans un instant. L'info à 20h40, Stéphane Milhomme.
Le baptême du feu d'Emmanuel Macron devant les Nations Unies ce soir. Le président de la République souhaite agir pour la paix en Syrie. Il qualifie le président Assad de criminel et il devra être jugé. La France prendra l'initiative sur les Rohingyas face à ce qu'il considère cette fois comme un génocide de la part des autorités de Birmanie. Un puissant séisme vient de secouer le Mexique, près de Mexico, 7,4 sur l'échelle ouverte de Richter, selon l'Institut géologique américain. Il a été ressenti dans la capitale. Des milliers de personnes sont descendues précipitamment dans la rue. L'ouragan Maria fait un mort dans les Antilles françaises, une personne décédée, deux portées disparues en Guadeloupe, selon la préfecture. L'alerte violette déclenchée à midi heure locale à Saint-Barthélemy et Saint-Martin, c'est-à-dire 18h heure de Paris. Et après l'ouragan Irma, cette fois, une émission spéciale est à suivre dès 20h55 sur France 2, en collaboration avec Radio France, pour récolter des fonds pour les sinistrés. Une nouvelle condamnation pour Benoît Magimel, 3 mois de prison avec sursis pour l'acteur. Aujourd'hui, il a reconnu l'achat et la consommation d'héroïne et de cocaïne. C'était dimanche dernier. La poursuite des critiques pour la direction de Ryanair, la compagnie irlandaise, a annoncé la semaine dernière la suppression jusqu'en octobre de près de 2000 vols, permettre à son personnel de mieux répartir ses vacances. Le patron de Ryanair présente ses excuses aujourd'hui et il propose une prime à ses pilotes en leur demandant de renoncer à quelques jours de congé.
France Info.
20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernat.
Les informés de France Info, il faut trouver 16 milliards. Alors si vous les avez, tant mieux. Voilà, vous pouvez aussi les donner. Si vous ne savez pas quoi en faire, c'est en tout cas le mot d'ordre du gouvernement. Donc on fait des économies à tous les étages. Jonathan Boucher-Peterson, c'est vrai qu'on a eu... Donc là, il pourrait y avoir une réforme de Pôle emploi, baisse des APL, des contrats aidés. Il paraît qu'il y a certains membres du gouvernement qui se disent on en a marre parce qu'on paraît toujours avec cette image où on touche aux plus fragiles. Mais c'est vrai que pour l'instant, on a l'impression que c'est eux qui trinquent.
Non, mais c'est le budget, c'est un révélateur, j'ai l'air assez cruel hein, souvent. C'est-à-dire que le est en même temps objet rhétorique, parfois brillant, parfois, ça vient se heurter à des réalités très, très comptables. On se rend compte qu'effectivement, là, ça bouge hein, quand même. On sent bien qu'il y a, il y a beaucoup de discussions sur où est-ce que le coup politique est le moins dur. C'est-à-dire c'est plus le coup d'opinion parce qu'il n'y a tellement pas de poids lourd politique dans ce gouvernement que, bon voilà, c'est quand Florence Parly monte au créneau, c'est sympathique comme témoignage. Ça n'a pas beaucoup d'effet. On peut imaginer peut-être qu'un Jean-Yves Le Drian peut un peu défendre, même s'il n'a pas beaucoup de marge de manœuvre.
Là où Nicolas... Non,
voilà. Donc clairement, il y a un enjeu où on va voir aujourd'hui ce que sont les marqueurs. Ce qu'on voit, c'est qu'un Bruno Le Maire et un Gérald Darmanin ont l'air en tout cas très à l'aise dans les arbitrages actuels. Hein. Donc les deux ministres qui sont issus de la droite et qui ont la haute main sur Bercy. Non, budget de transformation, on entend. Donc de fait, c'est-à-dire que s'opposer à ça, c'est, voilà, on voit bien la dialectique, hein, se met en place. Donc transformation, ça veut quand même dire rabot, hein, d'une manière générale. Donc j'entendais tout à l'heure, c'était mieux de s'intéresser à l'efficacité de comment l'argent était utilisé. Assez bêtement, quand au moment du budget, il vaut mieux s'intéresser à combien on a à disposition. Ouais. Voilà, c'est sûrement un équilibre à trouver. Là, ça va être difficile d'expliquer que, comme il y a les 50 milliards d'investissements sur le quinquennat, on espère que ce sera pour le prochain budget.
Il y a la main.
J'ai une question que je vous pose à vous deux. Alors, le macronien, macroniste, est-ce que le gouvernement cette année va commander plus ou moins de rafales à Serge Dassault alors
Je lui laisserai répondre.
Non, mais une question, c'est vrai, Xavier Alberti, c'est vrai qu'on a l'impression quand même qu'aujourd'hui, là, cet été, là, entre la baisse d'APL, contrat aidé, réforme de Pôle emploi, c'est quand même une catégorie de la population là, qui peut se sentir aussi visée quand même par des économies. Quand même.
Juste. On parle d'un budget qui n'est pas encore sorti.
Sur le fait
qu'il y ait des bouées sondes et qu'il y ait des allers-retours sur le budget sur chaque ministère, c'est pas une grande nouveauté pour le coup. On sait bien que c'est comme ça que ça fonctionne et qu'il faut bien qu'il y ait des ajustements. Il faut bien qu'on teste.
Que vous avez quelqu'un de Libération en face sur la réforme du code du travail où il y avait soi-disant des ordonnances, il y a eu des plaintes, c'était pas les bonnes.
Encore une fois, on connaît pas le budget. Globalement, il y a quand même des grandes lignes qui sont en train de sortir. Il y aura forcément des ajustements. Et on ne connaît pas encore non plus la teneur de la totalité des réformes à venir. Quand je dis à venir, c'est court terme. Quand on parle des APL, il n'y a pas eu de réforme sur les APL. Il y a eu un ajustement sur quelque chose qui était déjà inscrit au budget. Le sujet, c'est qu'il y a effectivement quelque chose probablement à refondre dans les APL plutôt que de gommer 5 euros, ce qui ne veut strictement rien dire.
Social, on a entendu dans les différentes éditions de la journée que le logement social crie au secours en disant c'est chez nous qu'on vient taper. Enfin voilà, visiblement, il y aura un sujet logement demain qui va être un objet de polémique. Il va falloir expliquer où est le en même temps et où est la justice sociale dans les décisions.
Ça mérite juste qu'on aille au bout des sujets et qu'on ne soit pas jugé sur, ou qu'on ne juge pas en permanence dans ce pays par le petit bout de la lorgnette en disant les 5 euros d'APL, ce qui est une bêtise évidemment sans nom, puisque ce n'est pas 5 euros qui vont changer quoi que ce soit, ne correspondent pas à ce qu'est la volonté politique de ce gouvernement sur le chantier, on va dire, global du logement.
Yann Lamagne.
Moi, j'ai envie de poser une question au
Macron. Vous êtes journaliste, c'est incroyable.
Je suis journaliste, une carte de presse.
Tout à fait, bien sûr.
Et voilà, l'hiver arrive, le premier hiver de Macron. Moi, je vois des gens, j'habite à République, dans la rue, mais ça devient affolant. Il y a des gens qui vivent dans la rue avec des mômes partout. Ouais. Il y a de plus en plus de gens au Resto du Cœur. Qu'est-ce que ce gouvernement va faire concrètement? Parce qu'on entend gouvernement après gouvernement des promesses. Là, ça va morfler, quoi.
Mais ce que je veux dire, il ne faut pas non plus. On n'a pas encore parlé de. On devait parler de la cote de popularité.
On va parler dans un instant, c'était ma question.
J'induis un peu.
On peut juste aussi laisser le temps au temps, quoi. C'est-à-dire que on peut pas imaginer, ou alors faudrait quand même être fou, de se dire que Emmanuel Macron et n'importe quel gouvernement qui le suivrait puissent changer les choses de façon aussi profonde.
C'est Macron qui dit ce qu'on fait pas en 6 mois, on le fait jamais.
Il dit aussi qu'il faut réconcilier la politique avec les temps longs.
Oui, mais quand on dit qu'on fait pas en 6 mois, on le fait jamais.
On va pas effectivement régler le problème de la grande pauvreté dans ce pays ou sur ce continent en 4 mois de.
Non, mais des annonces, je veux pas être le polémiste, mais on parlait des restos il y a une seconde, quoi. Les restos du cœur, c'est lié aux emplois aidés. Il y a eu un certain nombre de cas dans la presse.
Ça a été arbitré.
Non, ça a été arbitré. Mais ouais, mais pour le coup, ça crée ça, ce genre de. D'accord, mais enfin, ça crée ça, ce genre de décision.
Alors justement, Marion Lourd, à propos de cette baisse de popularité d'Emmanuel Macron, là, on a l'impression qu'il glisse comme sur une piste de bobsleigh, hein. C'est-à-dire que il y a eu un sondage Odoxa, niveau popularité, il perd 14 points depuis le mois de juin, 56% des Français interrogés pensent qu'il n'est pas un bon président. C'est quoi? C'est un dur retour aux réalités pour Emmanuel Macron après son élection? Ça veut dire que là, cet enchaînement de réformes, il y a beaucoup de choses aussi.
Il y a plusieurs choses. C'est que oui, c'est un retour à la réalité parce que c'est vrai qu'il n'a pas été élu avec un socle très large. Il y a eu une grosse abstention, etc. Donc il revient aussi sur son socle à lui. Et puis, il y a eu des réformes, des annonces, etc. assez contradictoires. Et donc, les gens ont du mal aussi aujourd'hui, alors que beaucoup n'ont pas eu une explication sur sa pédagogie, il n'y a pas eu une grande interview télévisée, il n'y a pas eu l'interview du 14 juillet, ont du mal à voir où il va et où il veut les emmener.
C'est-à-dire que celle du point n'a pas suffi, par exemple.
En plus, tout le monde ne l'a pas lu. Elle a été beaucoup lue par nous, les journalistes, les politiques, etc. Mais tous les Français, il n'y a pas eu plus de 60 millions de Français qui ont lu cette interview. Donc, il manque aussi cette explication et cette mise en perspective de ce qu'il veut faire au moment où il y a des choses qui ont crispé. La baisse des APL, la baisse des dotations pour les élus, la crise avec le général de Villiers. Donc,
et des mots peut-être comme feignant, des choses comme ça.
Et des mots qui ont heurté aussi, oui.
C'est ça, Xavier Alberti, sur cette baisse.
Je suis assez d'accord sur le fait que ça manque de lisibilité et le fait est qu'une interview dans un magazine quel qu'il soit apporte pas la lisibilité. Ce qui va l'apporter, c'est que derrière il y a des porte-paroles qui soient les relais de ce qui est dit à l'intérieur de cette interview et qui portent donc la parole auprès des Français pour expliquer, expliciter, donner du sens. Les 5 euros d'APL, typiquement, c'est quelque chose qui effectivement ne peut pas être lisible puisque ça n'a aucun sens en tant que tel.
Ouais, ça faisait mesure technique,
un sens budgétaire, voilà. C'est ça. Donc il y a un vrai sujet sur la lisibilité, sur la capacité qu'a Macron à trouver des relais qui sont capables de porter la parole. Ensuite, il y a le croisement de ciseaux inéluctable entre ceux qui trouvent que ça bouge déjà trop et ceux qui trouvent que ça bouge pas encore assez. Hein. Donc on est aussi à un moment un peu particulier. Il faudrait que ça aille très vite pour certains, on vient d'en parler, et puis pour d'autres, ça bouge déjà beaucoup trop, et donc ça crée évidemment ça a des impacts sur la popularité.
J'attends chez personne un sentiment de confusion, vous pensez, chez les Français aujourd'hui, avec beaucoup de réformes, d'un côté une grogne peut-être qui s'organise, on ne sait pas, il y a une semaine sociale immense là qui arrive.
Non, la petite musique, c'est de dire je préfère être impopulaire parce que je fais des choses que populaire parce que je ne fais rien.
Voilà,
ça c'est
magnifique,
la geste macronienne. Bon, il n'empêche que bon, une fois qu'ils seront à 20%. Cet hiver, ça va être plus difficile de faire passer des réformes. Mais on risque d'avoir un peu la dichotomie de la fin de quinquennat précédente, c'est-à-dire un président et un couple exécutif globalement qui est assez démonétisé dans l'opinion. C'est pas encore le cas. C'est vrai que la pente est quand même, on va pas paraphraser Raffarin, mais dans l'autre sens, la pente est raide. Et de l'autre côté, un groupe qui, à court terme, en tout cas, va tenir. Enfin, si on se dit réforme de la formation professionnelle, réforme de l'assurance chômage, tout ça, c'est des fondamentaux un petit peu du. S'il y a une idéologie macronienne qui se dessine là-dessus, ils seront d'accord. Le budget, on va s'en rendre compte. La PMA, on va s'en rendre compte. C'est des sujets où, pour le coup, ça va être beaucoup plus compliqué. Donc, ils peuvent tout à fait dire, on avance tant qu'on a 300 députés qui votent le doigt sur la couture. Quand ça va commencer un petit peu à bouger, voire à discuter, voire à débattre avec des gens qui vont être un peu plus à l'aise et s'affirmer, on verra si le « et » en même temps. Parce que donner du sens, c'est bien, mais il faut qu'il y en ait.
Vous juste, avez dit, ouais. Sur les trois sujets dont vous venez de parler, les trois font partie du programme d'Emmanuel Macron à la présidentielle. On n'est pas en train de découvrir la réforme de l'UNEDIC.
Mais Xavier Alberti, c'est vrai qu'on l'a senti.
PMA.
On a senti que sur la PMA, c'était Emmanuel Macron le souhaitait, mais que ça pouvait
pas
un
maintenant.
Peu tanguer.
Ouais, voilà. J'ai l'impression qu'il y a un petit sujet de calendrier, mais sur le fond, il n'y a pas de sujet. C'était clairement annoncé. Alors peut-être que c'est allé un petit peu trop vite. Et effectivement, il y a peut-être un peu trop de chantier ouvert.
En fait, chacun entend un petit peu ce qu'il veut. Le fait de l'avoir annoncé suffit pas à ce que ça se passe bien quand on veut le mettre en place.
Je pense qu'on n'est pas habitué. On n'est pas habitué forcément à ce que un homme politique élu fasse exactement ce qu'il avait dit.
Bah, s'il faisait exactement, je pense que ça se passerait mieux.
Allez, on va parler.
On va lui laisser un peu de temps.
Bien sûr, le temps long.
On va continuer à parler un peu de politique dans un instant. L'info à 20h50, Stéphane Milhomme.
Avec ce puissant tremblement de terre autour de Mexico précisément, 7,1 sur l'échelle de Richter, pas de précision sur d'éventuelles victimes dans la capitale mexicaine, mais des milliers d'habitants sont sortis précipitamment dans la rue dès les premières secousses. Après le passage de l'ouragan Maria, une personne est décédée, deux sont portées disparues en Guadeloupe selon la préfecture. L'alerte violette déclenchée à midi heure locale à Saint-Barthélemy et Saint-Martin, à 18h, heure de Paris, la Martinique est placé toujours en vigilance orange. Emmanuel Macron, depuis la tribune de l'ONU, l'accord de Paris ne sera pas renégocié. La France consacrera 5 milliards d'euros chaque année jusqu'en 2020 pour des actions sur le climat. Elle accueillera le 12 décembre un sommet international sur ces questions environnementales. Le siège parisien du Parti Socialiste est à vendre. Le trésorier Jean-François Debat l'annonce ce soir. La décision de principe pour ses locaux de la rue de Solferino a été prise près de l'Assemblée nationale. Une vente après les déroutes électorales de cette année, synonyme de manque à gagner d'une centaine de millions d'euros sur l'ensemble du quinquennat. Et puis jusqu'à 6000 étudiants en sport manifestés aujourd'hui de Reims, Bordeaux, Montpellier. Ils réclamaient davantage de moyens dans les STAPS, la filière sportive universitaire. Cette année, faute de place, 10 000 jeunes n'ont pas pu accéder à ces formations, victimes du tirage au sort. Ceux qui ont été reçus dénoncent des amphis trop remplis.
France Info.
20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info, Yann Lamagne, vous n'êtes pas intéressé par le siège du PS à vendre? Non?
35 millions, peut-être, je crois.
35 millions, non? Et ça vous intéresse pas?
Je suis bien dans mes 9 mètres carrés pour l'instant. Quand j'aurais revendu, peut-être.
C'est ça.
Je déconne pas.
Parce qu'on m'a fait un jour.
On m'avait dit que sur celoger.com, vous étiez intéressé. C'est pour ça. Allez, voici venu le moment tant attendu de l'émission, le point élection. Alors non, du calme. On va pas parler des sénatoriales, qui se dérouleront dimanche parce que je mesure votre déception. Je sais que ça soulève un véritable enthousiasme dans la population. Non, nous allons parler de la présidence, en fait, des Républicains et de l'interview, en fait, de Laurent Wauquiez, le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes a donné. Et donc, il y a un entretien à Valeurs Actuelles dans lequel il définit sa vision de la droite et revient sur un de ses engagements les plus médiatiques, à savoir son combat contre le mariage homosexuel. Alors, désormais, il ne souhaite plus revenir sur la loi Taubira. Marion Bourg, il a mis de l'eau dans son vin.
Oui, il n'est plus... Wauquiez. Il n'est plus pour l'abrogation de la loi Taubira, il est pour la réécriture, en disant qu'il s'aligne sur la position du parti et que désormais, la priorité, c'est la filiation, c'est la PMA, c'est la GPA. Et donc, il y a un petit bouger là.
Et pourquoi il le fait, ça?
Parce que c'est une manière de commencer à ouvrir un petit peu, parce que après l'élection de la présidence du parti, eh bien, il y aura d'autres échéances et qu'il va falloir commencer à élargir un peu son électorat aussi. Donc il faut le faire de manière délicate, si je peux le dire comme ça.
Comment vous le voyez, Yann Lamagne, vous l'envoquez?
Je le vois comme il se décrit lui, c'est-à-dire quelqu'un qui se tripote en regardant YouPorn. Chez nous, on appelle ça un petit branleur. Voilà.
Très bien, bah voilà, c'est dit. Au moins, voilà, il sera ravi parce qu'il écoute en plus. Vous savez,
oui.
Il vous aime beaucoup.
Et salut, Laurent.
Très bien. Jonathan Boucher-Petersen, on voit donc son combat. Non, mais toujours. Il n'y a aucun souci. Je sais que vous êtes là pour
l'ONU.
Ça.
L'ONU.
Son combat, donc, voilà, Laurent Wauquiez, c'est la PMA élargie à toutes les femmes. On voit que c'est un sujet qui fait grincer, on l'a dit tout à l'heure, au gouvernement. Est-ce que ça peut trouver un écho dans la population, ce combat, comme finalement il y a pu y avoir au moment de la loi Taubira?
Dans la population, je ne sais pas. Dans sa population, oui, très, très clairement. Sinon, il ne le ferait pas. Hein. Laurent Wauquiez, il ne fait rien par hasard. Et si il le fait, c'est que c'est efficace. Hein. Non, après, il y a une situation un peu singulière à la présidence de l'UMP. C'est qu'en gros, il y a Wauquiez et les autres. Hein. Je ne sais pas si on fait le test dans la rue. Je pense que sans leur faire injure, voilà, pour le coup, il n'y a pas de personnalité marquante. Il est le candidat le plus à droite à la base. Donc d'habitude, il y a toujours quelqu'un pour... qui, par ses paroles excessives, vous recentre mécaniquement. Là, Laurent Wauquiez, il faut qu'il fasse ce travail lui-même s'il veut avoir un score un petit peu central. Là, on voit qu'il y a toute une... voilà, on parlait de Florian Philippot qui est objet de détestation absolument généralisée au Front National. Laurent Wauquiez, c'est vraiment son pendant chez LR, quoi. Il y a beaucoup de gens qui le craignent, il y a beaucoup de gens qui considèrent que c'est une mécanique intellectuelle plutôt efficace. Après, humainement, visiblement, c'est on est au ras des pâquerettes.
Et donc, pourtant, il y a beaucoup de militants, on le dit hein, aussi, il y a pas mal de poids lourds qui ne souhaitent pas se présenter face à lui. Est-ce que les militants...
Oui, parce que les militants... Bah, parce que à droite, on gagne à droite et on gagne très à droite, hein, que ce soit Jacques Chirac en son temps, hein, c'était Chirac le facho, hein, c'était quand même comme ça qu'il était appelé. Nicolas Sarkozy, quand il prend l'UMP en 2007, on peut pas absolument dire que ce soit du centre-droit. Voilà, et aujourd'hui, on est dans cette même dynamique-là. Après, l'avenir politique de Laurent Wauquiez, il sera sûrement inférieur à celui de Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy.
Alors, Marion Bourg, décidément, Laurent Wauquiez, dans cette même interview, dit « Le premier chantier, c'est de faire connecter, je cite, hein, deux hémisphères, les intellectuels de droite, comme Phil Kelkraut, Houellebecq ou Le Goff, dont il salue la vitalité du débat, et les politiques de droite, je continue à citer, dont il constate le vide sidéral de nouvelles idées. » Alors, mais de qui il parle ? C'est-à-dire, il parle pas de lui, je j'imagine, quand il dit ça. C'est-à-dire, de qui il parle ? Les hommes politiques de droite n'ont plus du tout d'idées ?
Bah, il parle du parti en général, parce que c'est vrai que ces derniers temps, le parti n'a pas produit beaucoup d'idées. Alors, il y a eu la primaire où il y a eu un débat avec différentes lignes, parce qu'il y avait différents candidats. Mais sinon, on n'a pas vu émerger de grands débats, comme on pouvait le voir il y a quelques années. Donc, c'est vrai que de toute façon, quel que soit le vainqueur, ce sera sûrement lui, parce que vous l'avez dit, il est ultra favori. Il faut remettre aussi un peu de...
De contenu. Xavier Alberti, il parle d'Emmanuel Macron comme un homme qui préfère le multiculturalisme à sa propre nation. On voit en effet qu'il tape, c'est à droite, là, Laurent Wauquiez.
Ah bah oui, forcément, oui.
Bah, c'est là où il va chercher.
C'est là où il cherche. Il démontre lui-même d'ailleurs qu'ils produisent plus aucune idée. Ils produisent des slogans, des postures et des caricatures. Se raccrocher à la Taubira pour poser un discours sociétal en France aujourd'hui, c'est faire l'aveu de sa propre impuissance. Il touchera pas à la loi Taubira. D'abord, pour qu'il y touche, il faudrait qu'il soit président de la République, soit Premier ministre avec une majorité à l'Assemblée nationale. Vous m'accorderez que c'est pas tout de suite que ça peut arriver. Donc c'est vraiment que de la posture. Et il est là uniquement pour essayer de faire ce dont on parlait au tout début, c'est-à-dire du clivage, hein, et créer les conditions de son existence politique. Il n'y a rien là-dedans de très sérieux.
Allez, les informés de France Info, ça doit se terminer. Merci beaucoup, Xavier Alberti, d'être passé ce soir. Merci, Yann Lindingre. Alors, ça, Flux Glacial, justement, sur les pionniers qui ont créé Flux Glacial, vous sortez un numéro spécial, donc il faut absolument l'acheter, tout simplement. Hein. Voilà, on peut
je
dire ça.
Je ne saurais pas dire mieux.
Et ben voilà, je suis en train d'acheter de presse maintenant. La Une Figaro, Marion Manque demain.
Sélection à l'université, le gouvernement au pied du mur.
Et la Une de Libération, Jonathan Boucher-Petersen.
On revient sur des registres différents sur les performances de Donald Trump à l'ONU, évidemment, et sur le psychodrame au FN qui nous intéresse aussi beaucoup.
Allez, il est temps de retrouver Jean-François Aquili. Bonsoir, Jean-François.
Bonsoir, Mathieu.
Pour Tout est politique au programme ce soir.
Au programme ce soir, à quoi sert la droite face à Macron? On va poursuivre avec Julien Aubert, qui est député LR du Vaucluse, qui est candidat à la présidence du parti, camarade de promo à l'ENA d'Emmanuel Macron. Hakim El-Karoui, essayiste bien connu. Pierre Cerne, aussi conseiller régional Europe Écologie Les Verts d'Île-de-France. Ça va parler transport et écologie aussi.
Tout est politique, c'est dans quelques minutes sur France Info.